Bonjour à chacune et à chacun. Je suis vraiment très heureux et bouleversé d'être là parmi vous cet après-midi et pour les trois jours qui viennent. Parce que je me souviens que la dernière fois, c'était en 1994, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et revoir toutes les personnes que j'ai pu rencontrer il y a 20 ans et durant les 20 années qui ont suivi, et puis se retrouver là, aujourd'hui, au milieu de vous, c'est vraiment pour moi un honneur, c'est vraiment pour moi un privilège. Et quand Reynald m'a proposé d'animer cette série de conférences, il y a tellement de gens tellement plus compétents que je ne suis sur ces sujets. Je voudrais vraiment vous remercier de votre confiance, vraiment vous remercier du privilège et de l'honneur que vous me faites de venir réfléchir avec vous sur ces questions vraiment très importantes. 20 ans. Alors, il y a 20 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez quel était le sujet que j'avais traité, c'était déjà la famille, comme quoi il y a des constantes. Mais je me souviens de l'angle d'approche que j'avais eu pour traiter le sujet. Et qui aurait dit il y a 20 ans qu'un des sujets que nous allions aborder aujourd'hui est le mariage pour tous? Qui aurait pensé il y a 20 ans que c'était un sujet que l'on traiterait lors d'un congrès des KF? En tout cas, moi, je n'étais pas en mesure d'imaginer que c'était un sujet qu'on traiterait. Et pourtant, c'est un sujet qu'on doit traiter. Dans 20 ans, de quoi parlerons-nous? Je ne sais pas. Peut-être que dans 20 ans, et ça va être un peu l'angle que je vais utiliser pendant ces trois jours, dans 20 ans, et là, je vais certainement vous bouleverser en disant cela, le mariage pour tous sera tellement rentré dans les mœurs qu'on se posera peut-être la question dans 20 ans, mais pourquoi, il y a 20 ans, on a fait tellement d'histoires autour de cette question? Et c'est pour éviter cela que j'aimerais, en tout cas pendant ces trois jours, essayer d'apporter quelques éléments de réflexion, pour que justement on ne s'habitue pas à cela, et qui est véritablement, à mes yeux, le fond du problème. Le fond du problème. Vous savez, le mariage pour tous, c'est la conséquence d'un bouleversement de fond qui s'est produit dans la société. Et c'est ce bouleversement de fond, si je voulais prendre l'image de l'iceberg, qui est une image très parlante, le mariage pour tous, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui s'est passé profondément dans la société pour qu'on puisse accepter cela comme une évidence? Famille sous pression, famille en mission. Je redoute quelque chose là, alors que je prends la parole, c'est je vais me battre avec le temps pendant les quatre conférences que j'aurai. Alors, il faut qu'il y ait des gardiens du temps qui m'arrêtent. J'ai 40 minutes pour faire chaque exposé. C'est un exploit pour moi de pouvoir faire ça en 40 minutes. Et si vous sentez que je dépasse un peu le temps, faites-moi signe. Et je ne ralentirai pas, parce qu'il fera quand même que je vous dise tout ce que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, j'en tiendrai compte pour essayer d'adapter ma présentation. Alors, en réfléchissant à ce sujet et en me préparant à ce sujet, famille sous pression, famille en mission, un verset s'est imposé à moi, avec le verset que vous avez choisi et dont je parlerai un peu plus demain matin. Cette parole de Paul en Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce monde-ci ». Mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Et nous avons véritablement besoin d'apprendre à discerner ce qui se passe dans les sociétés que nous vivons. Et il me semble qu'on peut dire que de tout temps, et ce n'est pas seulement au XXIe siècle, les sociétés ont cherché à modeler les pensées, les sociétés ont cherché à modeler les croyances et l'intelligence de leur peuple. Et aujourd'hui, quand j'écoute le discours politique de nos dirigeants, comme toutes les initiatives législatives que prend le gouvernement, eh bien, elles sont toutes tournées vers les nouvelles familles. Les nouvelles familles, au point que la famille traditionnelle, un père, une mère et leurs enfants, eh bien, apparaît de plus en plus comme un vestige du passé. Et après le mariage pour tous, dont on a beaucoup parlé durant les 6 derniers mois, les 2 dernières années, eh bien arrive la PMA. Et vous allez voir qu'on va avoir encore droit à des situations absolument surréalistes où on ne pourra pas véritablement entrer dans un véritable débat. Et la procréation médicale assistée pour les femmes homosexuelles occupe aujourd'hui le devant de la scène des débats actuels. Et que ce soit pour la mettre en avant ou pour la rejeter, on en fait, en tout cas nos politiques, l'un des sujets les plus urgents et les plus importants d'une politique familiale. Et là, on a vraiment raison de se poser des questions. On a vraiment raison d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand j'écoute toujours nos politiques, quand j'écoute nos dirigeants, nous sommes invités à prendre pour idéal la modernité. Ça, c'est vraiment le leitmotiv. À considérer les grandes évolutions qui se produisent aujourd'hui au sein des familles comme une étape supplémentaire de la lutte contre l'injustice et la discrimination sous toutes ses formes. Alors, qui peut être contre la lutte contre les injustices ou contre les discriminations sous toutes ses formes? Et le sujet et sujet de fond concernant ces nouvelles familles nous sont présentés, bien sûr, sous cet angle. Et nous sommes également invités à accepter la bien-pensance dominante comme la référence ultime des convictions que nous devons avoir aujourd'hui. Alors nous sommes invités à ça, mais il y a une autre invitation que le Seigneur nous fait. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Et c'est ce travail de discernement que j'aimerais faire avec vous pendant ces 3 jours. Et vous savez, le mot discerner est un mot qui est très riche, très très riche. Et quand on utilise ce mot discerner, surtout quand la parole de Dieu nous invite à discerner, eh bien, d'une part, ça nous invite ça nous amène à distinguer les choses et distinguer plus ou moins nettement, parce que les choses ne sont pas claires, et les distinguer par un effort d'attention dans un ensemble, dans une masse. Et c'est vrai que nous sommes plongés dans une société qui nous bombarde d'informations en permanence. Et ce travail de discernement va nous amener à mener un travail de démêlage. Un travail de démêlage par la réflexion et la prière. Et pourquoi faire un travail de démêlage? Parce que c'est la seule manière pour nous de différencier entre une chose et une autre. Et pourquoi nous devons différencier une chose par rapport à une autre et ne surtout pas tout mettre sur le même plan? C'est pour séparer le vrai du faux. Séparer le vrai du faux. Et il me semble que ce travail de discernement, inévitablement, entraîne des tensions. Et c'est bien le thème de votre congrès, et je peux comprendre que vous ayez fumé avant de pouvoir trouver un thème qui puisse être aussi fédérateur que celui-là par rapport à tous ces bouleversements familiaux. Et il n'y a pas de discernement sans tension. Tension entre des choix de vie que nous voulons faire, qui nous semblent bons, qui nous semblent agréés, qui nous semblent parfaits, et puis des modèles suggérés que l'on veut nous imposer. Et il va y avoir un travail de tension pour séparer le vrai du faux. Mais également tension et décalage entre notre désir de faire la volonté de Dieu, et je crois que c'est un désir qui est profondément ancré en nous, et la réalité qui est parfois tyrannique, la réalité de nos vies qui est parfois tyrannique. Et la réalité des sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont parfois aussi tyranniques. Et je vois également des tensions entre nos pulsions et la raison. Vous savez qu'il y a un film qui vient de sortir sur l'affaire DSK, Bienvenue à New York, et on a résumé le problème de M. DSK confronté à cette tension entre les pulsions et la raison. Et la manière dont M. DSK s'est purement et simplement vautré dans ce décalage et cette séparation qu'il n'a pas pu faire. Tension entre la tradition et la culture du royaume de Dieu que nous voulons porter et que nous voulons transmettre. Tension également entre nos désirs et l'obéissance. Et ce sont tous ces thèmes que je vais essayer d'aborder par rapport à votre sujet, le sujet que vous avez proposé. Et je crois que c'est un excellent sujet, le sujet des tensions, parce que la Bible se fait également l'écho de ces tensions. Alors moi, j'essaye d'imaginer des observateurs de la famille qui auraient vécu à l'époque d'Abraham, à l'époque de Lot ou à l'époque du roi David. Et je pense qu'ils auraient été aussi bouleversés que nous le sommes par rapport à certaines tensions auxquelles ont été confrontés ces grands hommes de Dieu. Abraham, qui par exemple, sans hésiter pour avoir la vie sauve, eh bien, lâchera sa femme, quitte à la condamner à partager la couche du Pharaon. Et quand Pharaon vient le voir en lui disant « Mais comment as-tu osé faire une chose pareille ?» La piètre réponse d'Abraham qui répond « Écoutez, je ne pensais pas que dans ce pays, il y avait une crainte de Dieu, une connaissance de Dieu. » Eh bien, Abraham lâchera sa femme. Je pense également à Lot, qui, sous l'effet du vin, se fabriquera une descendance au travers d'un double inceste. Genèse, au chapitre 19. Qu'est-ce qu'auraient dit les commentateurs de la famille de la vie de Lot? Et puis, bien sûr, je pense au roi David, au grand roi David, qui était un homme à femme. Et ça, il ne faut pas qu'on se le cache et qu'on l'ignore. Qui aimait les femmes. Et qui ne s'est malheureusement pas contenté de ses épouses légitimes, et qui, en 2 Samuel 12, nous montre que ce grand roi a eu beaucoup de peine à résister entre la raison et les pulsions. Et il volera la femme de son capitaine, il fera tuer son mari, et il aura la vie sauve, parce qu'il fera l'expérience d'un pardon humainement insoupçonnable de la part de Dieu. Et également le roi Salomon, qui a toujours été tiraillé, en tout cas vers la fin de sa vie, entre la sagesse et ses centaines de concubines qui l'ont emmené à basculer vraiment dans un versant sombre de son existence. Tiraillé entre des tensions qu'on ne sait pas gérer. Alors qu'est-ce que les commentateurs de la famille auraient dit à l'époque de ces grands hommes? Eh bien, ils ont été certainement emmenés à parler des évolutions de la société, de notre manière parfois un peu facile de faire passer ce que nous comprenons de Dieu ou la culture du royaume de Dieu qu'on veut mettre en œuvre, et puis la manière dont on est terriblement influencé par les cultures dans lesquelles nous vivons. Et il me semble que pour nous, au XXIe siècle, c'est très important que nous soyons attentifs à cette manière très subtile que parfois nos sociétés ont de formater notre intelligence pour finalement nous faire accepter l'inacceptable ou nous faire considérer comme vivables des choses qui ne le sont absolument pas. Tension entre le mode biblique, le modèle biblique et les réalités. Après cette brève introduction, j'aimerais vous proposer donc un plan en trois étapes. Dans une première étape, je m'attarderai sur les formatages auxquels nous sommes exposés. Parce que pour moi, c'est la question fondamentale par rapport à tout ce travail de discernement et de réflexion que nous voulons avoir afin de discerner ce qui est bon, agréé et parfait. Les formatages auxquels nous sommes exposés, qui sont très subtils et qui nous influencent beaucoup plus que nous le pensons. Et j'essaierai d'illustrer mon propos par quatre exemples très différents les uns des autres. Dans un deuxième temps, eh bien, je ferai un commentaire sur le mariage pour tous. Alors, je crois que c'est important de le faire, parce qu'aujourd'hui, ça va véritablement devenir le référentiel. Si nous voulons être pertinents vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis des raisons qu'on nous demandera pour savoir pourquoi nous n'approuvons pas le mariage pour tous, eh bien, c'est important de savoir comment ce formatage nous a amenés à voter cette loi au Parlement et à la faire passer. Alors, ce sera forcément succinct et résumé, mais je donnerai plus de détails, en tout cas, dans l'atelier que j'animerai pendant ces 3 jours. Et enfin, troisième partie de mon plan, vivre le mariage. J'essaierai d'apporter un regard biblique croisé sur le mariage, eh bien, qui nous permettra, je l'espère, de dégager quelques idées essentielles. Voilà mon plan, j'espère qu'il vous va. Dans l'immédiat, j'en ai pas d'autres, d'accord ? Donc, alors, première étape de notre voyage, les formatages. Les formatages. Depuis 30 ans que je suis dans le conseil conjugal, c'est véritablement une question qui me semble clé. Et pour moi, il y a vraiment une évidence auquel je ne vois pas comment on pourra s'extraire. Cette évidence, c'est que si le mariage, aujourd'hui, peut être revendiqué pour 2 personnes du même sexe, eh bien, c'est le signe que nos esprits ont été formatés à un nouveau référentiel. Et j'insiste, de mon point de vue, c'est véritablement la chose la plus sérieuse qu'il nous faut considérer dans cette question qui nous bouleverse tous. Et que nous le voulions ou non, comme je l'ai annoncé un peu dans le commentaire de présentation de cette première conférence, nous sommes influencés par les référentiels des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et ces référentiels ne sont pas toujours négatifs, ils peuvent même être positifs, ils peuvent même faire progresser les sociétés d'une manière significative, mais qu'ils soient source de progrès ou pas, c'est toujours par un formatage long et patient des esprits que ces référentiels finissent par s'imposer dans notre esprit. Et une fois qu'ils sont imposés, eh bien, nous vivons en conséquence. Alors, le premier exemple que je prendrai, je le prends au XIXe siècle. Au XIXe siècle, avec le Code civil, à l'époque de Napoléon. Le Code civil, qui n'a pas entendu parler du Code civil ? Alors, quel est le contexte du Code civil de 1804 ? Napoléon est champion de l'ordre et de la sécurité. Et Napoléon a une vision qui est totalement pyramidale de la société, avec ce qu'il appelle l'ordre des familles, qui va l'emmener à obliger de produire des formalités extrêmement strictes pour la formation, notamment du lien conjugal, avec ce que l'on a appelé le consentement parental, les actes respectueux que les enfants étaient censés produire vis-à-vis de leurs parents. Et une des clés, mais explicitement écrite dans le Code civil de Napoléon en 1804, c'est que ce code a pour but en partie de protéger la libido masculine. Protéger la libido masculine. Et alors, la vision de la famille qui en résulte est celle-ci. La position de la femme, l'article 213 du Code civil, la femme est une majeure sous tutelle. La nature féminine est un handicap. Et le mari est appelé à être le magistrat domestique de sa maison. Et la famille du Code, en tout cas la première version du Code, qui a été quand même un peu révisée depuis, eh bien c'est la famille des étreintes raisonnables. On est loin du Cantique des Cantiques, hein, qui est quand même, bibliquement, un des aspects et dont il faut qu'on tienne compte de la manière dont Dieu voit le couple et la famille. Et ce qui est fondamental dans le Code civil de 1804, c'est la propriété. La propriété qui est un droit inviolable et sacré. Et tout ce que l'on va construire autour du mariage n'aura qu'un but, préserver la propriété des grandes familles. Le mari, dans le Code civil, est appelé un empereur à petits pieds. Alors, je suppose qu'il y a certainement des hommes qui vont regretter ça aujourd'hui, mais voilà, un empereur à petits pieds. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari, le mari administre tout, il surveille tous les biens et les mœurs de sa compagne, alors que lui, par rapport à sa liberté sexuelle, a beaucoup plus de possibilités et d'ouverture que sa femme ne l'a. Alors je me pose une question, ça c'était au XIXe siècle. Qu'est-ce que j'aurais enseigné au congrès des KF en 1810 ? Qu'est-ce que j'aurais dit sur la famille en essayant peut-être de présenter la vision que j'allais vous montrer ou que j'allais développer comme une vision très empreinte de culture biblique ? Et je suis désolé quand je regarde cette vision de la famille de 1804. Elle est très éloignée de ce que la Bible dit. Et on ne peut pas douter du travail de structuration des pensées, des mentalités, des intelligences que le Code civil a produit en France. Deuxième exemple de formatage. Alors que nous commémorons le centenaire de la Grande Guerre et les 70 ans d'Day. Alors moi, je suis bouleversé quand j'écoute tout ce qui se dit aujourd'hui sur cette célébration, cette commémoration. Et que on le veuille ou non, il y a aujourd'hui, dans le monde occidental, une allergie à la guerre et à la violence. Alors vous allez dire, mais comment tu peux dire une chose pareille, Gérard ? Oui, une allergie à la guerre et à la violence. Le 23 août 1914, 27 000 soldats français sont tués en un jour. Plus de 1 500 000 suivront pendant toute la période de la guerre sur les 4 ans qui ont suivi. 10 millions de soldats tués dans toute l'Europe. Un carnage. Et quand vous regardez aujourd'hui le regard des historiens sur ce carnage, les généraux des deux camps sont pointés du doigt. En ayant conduit des millions d'hommes, des millions de jeunes, à une boucherie innommable. Eh bien aujourd'hui, 3 soldats français sont tués en RCA et c'est le président de la République qui intervient en personne à la télévision pour présenter ses condoléances aux familles et pour consolider et rassurer la nation que ces 3 soldats tués ne seront pas tombés inutilement. Eh bien oui, hier, la guerre, les combats, c'était d'abord une histoire d'hommes. Eh bien aujourd'hui, que l'on veuille ou non, nous sommes installés dans une société qui s'est féminisée, avec des valeurs propres au féminin. Et on ne va pas s'en plaindre. 27 000 soldats tués le 23 août 1914. Eh bien, la question que je me pose, quelle est la conséquence de cette féminisation de la société dans ma vision du monde, dans notre vision du monde, dans notre vision de la famille, dans mon enseignement? Et là, il faut qu'on se pose la question vraiment en toute simplicité. Formatage. Le troisième exemple va vous faire sourire. Mais moi, il m'a fait rire et il m'a fait pleurer en même temps. Troisième exemple, l'alcool au volant. L'alcool au volant, et là je vous pose une question, circonstance atténuante dans les années 70, début des années 70, eh bien, Colin Serrault, dans son dernier film « Tout est permis », voyez, un titre biblique, affirme que l'alcool au volant était considéré comme une circonstance atténuante en cas d'accident dans les années 70. Vrai ou faux? Eh bien, mes amis, c'est absolument vrai. Jean-Yves Salahin, qui est délégué régional général de la prévention routière, l'a confirmé le 14 mai dernier sur France Info. Jusqu'au début des années 70, on parlait peu de l'alcool au volant. Et il n'y avait pas de taux limite d'alcoolémie dans les ceintures, pour les gens qui conduisaient. Pas de ceinture de sécurité obligatoire. Pas de limitation de vitesse stricte. Et si vous arriviez devant le juge après un accident et que vous disiez au juge, eh bien, écoutez, je fêtais l'anniversaire de ma fille ou je fêtais le mariage de mes enfants et j'avais un peu bu. Eh bien, le juge considérait que c'était une circonstance atténuante. Et puis en 72, il va y avoir un raz-de-marée, un séisme, 18 000 personnes tuées en France dans les accidents de la route. 18 000 personnes, une ville comme Mazamet rayée de la carte. Et là, tout d'un coup, prise de conscience. L'alcool aujourd'hui est une circonstance extrêmement aggravante en cas d'accident, mais seulement depuis 2007. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit sur l'alcool au volant en 70? Si je n'avais pas fait ou si je ne voulais pas faire un travail de discernement tel que la parole de Dieu nous y invite. Et puis, le quatrième exemple, et j'arrêterai là mes exemples, mais pour vraiment vous montrer à quel point c'est extrêmement subtil, je le prendrai... suite à une observation que j'ai faite dans mes nombreux voyages en Afrique, parce que c'est un pays dans lequel nous nous rendons très souvent. Et vous savez qu'en Afrique, alors les frères africains qui sont là, je pense que ce ne sera pas inconnu de le deuxième bureau en Afrique. Alors c'est quoi le deuxième bureau? Alors je vais vous donner une idée et ça va vous éclairer. Pour venir ici, donc je suis parti de Londres jeudi. Et j'arrive à la gare de Lyon, je demande un ticket pour la gare de Saint-Amour, parce que j'habite dans un petit village qui s'appelle Saint-Amour. Dieu ne pouvait pas faire quelque chose de mieux que ça, me faire vivre dans un village qui s'appelle Saint-Amour. Et le contrôleur du billet, le vendeur de billets, il me dit, vous habitez à Saint-Amour, donc vous êtes un homme amoureux. Ah ben, je dis oui, bien sûr. Vous êtes amoureux, mais j'espère pas de votre femme. Je dis, mais si, précisément, je suis amoureux de ma femme. Et là, il a interpellé tous ses collègues là, qui étaient en train de vendre des tickets à toute la gare de Lyon. Et regardez, j'ai trouvé encore une espèce d'homme qui aime sa femme et qui est amoureux de sa femme. J'étais sidéré. Eh bien, le deuxième bureau, en Afrique, c'est un peu ça, deux poids, deux mesures. Il y a une attitude implicite plus tolérante à l'égard des relations sexuelles extra-conjugales des hommes dans la société africaine, même dans les églises. Et bien sûr, parce qu'on a la Bible qui nous dit que ce n'est pas quelque chose à faire, et bien quand on essaie d'expliquer l'adultère de l'homme, on essaie de le justifier ou de le minimiser en rendant l'épouse plus ou moins responsable des écarts de conduite de son mari. Alors nous, quand on se retrouve dans ce contexte-là, on bondit d'indignation. Comment peut-on dispenser l'homme vraiment d'une remise en question et pourquoi charger sa femme chaque fois que cet homme est infidèle en suggérant à la femme que peut-être elle ne s'occupe pas assez bien de son mari et que par conséquent son mari est tenté d'aller voir ailleurs. Et on se trouve clairement dans la même situation que dans Jean 8, où il y a une inflexibilité à l'égard de la femme adultère, au point qu'on la traîne devant Jésus pour la mettre en spectacle et pour la lapider. Par contre, tolérance extrême à l'égard de l'homme adultère qui est libre de partir. Et j'ai été confronté avec Martine à cette situation à Kinshasa en 2006, dans la grande cathédrale de Kinshasa. 3000 personnes, 1500 couples qui étaient là pour une fête de leur mariage. Et je revois encore le pasteur de cette cathédrale qui prend la parole et qui dit aux dames qui sont là, « Ma maman, je vous félicite parce que vous, au moins, vous avez choisi la bonne part. Vous, au moins, vous avez choisi un mari. Vous n'êtes pas comme toutes les femmes du dehors qui, elles, toutes ont un deuxième bureau. Vous avez choisi la bonne part. Et c'est bien, je vous félicite. Vous n'êtes pas comme ces femmes mauvaise vie qui sont à l'extérieur et qui ne viendront jamais dans nos églises. Mais je comprends qu'elles ne viennent pas dans nos églises si on les traite comme ça. Et c'était nous qui devions prendre la parole, Martine et moi, après un discours aussi tonitruant et aussi motivant. Et là, Martine a simplement dit, moi je voudrais dire juste une chose, s'il y a des femmes deuxième bureau, c'est qu'il y a des hommes deuxième bureau, derrière toutes ces femmes deuxième bureau, et qu'il faut arrêter d'avoir deux poids deux mesures dans notre manière de traiter l'éthique familiale. Et de laisser nos esprits se faire formater par des cultures ambiantes, qu'elles soient africaines et qu'elles soient européennes, pour nous faire accepter des choses pas acceptables. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que notre éthique morale est à géométrie variable? Et dans la société dans laquelle nous vivons, nous devons bien entendu nous poser aussi cette question. Alors voilà, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, mais ces quatre exemples montrent à quel point il est facile de se laisser formater. Hein. Et nous risquons toujours trois dérives quand nous manquons de discernement. Trois dérives. La première, c'est le risque de confusion entre ce qui est culturel, propre à une société, à une pensée dominante, et l'enseignement de la Bible. Et là, discernement. Même avec le code civil de 1804 de Napoléon. Deuxième risque que nous prenons, eh bien, c'est le risque d'indifférenciation. Indifférenciation entre ce qui est vraiment essentiel et ce qui est secondaire. Ce qui est vraiment fondamental et ce qui est circonstanciel. Et il faudra également, là, que nous fassions un véritable effort de discernement. Et enfin, le troisième risque, le pire, eh bien, c'est le risque d'anesthésie spirituelle, où on finit par admettre l'inacceptable. Voire à y adhérer. Et quand je regarde la manière dont le mariage pour tous nous a été présenté, eh bien, il y a véritablement, il me semble, une tentative d'anesthésie spirituelle chez nous. Et quelques mots sur le mariage pour tous, parce que je voudrais quand même venir rapidement à ces piliers bibliques qui ne seront certainement pas originaux pour la plupart d'entre vous, mais sur lesquels il nous faut revenir sans cesse. Hein. Je crois vraiment que le mariage pour tous est un sujet complexe, délicat, très controversé, et les arguments se sont affrontés sans rendre possible un dialogue entre les partisans et les opposants. Et on peut même dire que le débat a été totalement inexistant. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce débat n'est pas un débat politique. Cette question touche à notre conception de l'homme et de la femme. Et inévitablement, elle se situe en amont de la politique. Et il ne faut pas que nous croyions autre chose par rapport à cela. Et à l'origine de ce nouveau référentiel, il y a eu beaucoup de choses dites dessus, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est évidemment le concept de genre. On ne naît pas homme ou femme, on le devient. C'est Simone de Beauvoir qui avait déjà exprimer cette idée, ce principe. Et la non-différenciation des sexes, au nom de l'égalité, est le cœur de la théorie du genre. Et le genre peut être défini comme le rôle social attribué à chaque sexe. Le genre est en fait le sexe social. Et pour dire les choses vraiment très claires, on est neutre, nous naissons neutres, et c'est l'environnement culturel et social qui nous fait être hommes ou femme. Et l'individu n'est pas défini par son sexe, homme ou femme, mais par sa sexualité, homo ou hétéro. Et on remplace l'identité sexuelle par l'orientation sexuelle, très subtil. Et on baigne dans cela. Et le concept de genre est bien entendu l'instrument d'une révolution, d'une évolution culturelle sans précédent. Et le concept de genre, et pour moi c'est très important que nous comprenions bien cela. Alors il y a pas mal de choses qui ont été écrites dessus, et je vous invite vraiment à aller fouiller ces choses-là. Eh bien, le concept de deux genres est vraiment le révélateur d'une société qui refuse le réel comme limite à ses désirs. On ne peut pas le dire plus simplement. Et cette révolution prétend s'appuyer sur l'interchangeabilité des rôles et l'indifférenciation des sexes au nom de l'égalité. Et on ne s'appuie pas sur la réalité des êtres et des faits, mais par contre, l'individualisme et le désir sont souverains. Et clairement, cette révolution évolution a pour but de satisfaire les désirs et les fantasmes des adultes, où il n'y a plus de limites. Et toujours, pour bien comprendre les conséquences de cette théorie, eh bien, c'est que sexe et genre sont dissociés. L'identité de genre remplace l'identité sexuelle. Et l'égalité des genres remplace l'égalité des sexes. C'est une révolution innommable qui clairement vient, vous allez le voir tout à l'heure, en opposition mais frontale avec ce que la Bible enseigne. Et l'individu ne se définit plus selon son identité sexuelle mais selon son orientation sexuelle. Et orientation sexuelle qui peut évoluer. Et il n'est pas question que je m'enferme dans un sexe que je n'ai pas choisi, mais je veux vivre de la façon dont je me perçois. Et ça, c'est énorme. Et l'individu ne se définit plus comme homme ou femme, mais comme hétéro ou homosexuel. Et je crois qu'il faut rappeler simplement qu'avant tout, on est un homme ou une femme. Et une société qui tend à réduire l'individu à son orientation sexuelle est une société qui se ratatine sur elle-même. Parce que les conséquences sont extrêmement appauvrissantes. Et quelle que soit leur orientation sexuelle, les individus sont avant tout un homme et une femme. Et c'est bien en tant qu'homme ou femme qu'ils ont des droits et qu'ils sont acteurs dans la société. Et non pas en tant qu'hétérosexuel ou en tant qu'homosexuel. Et sous couvert d'égalité, eh bien, on refuse tout simplement de reconnaître la différence et la complémentarité. Une minute. Misère, comment je vais faire? Alors là, il faut que je me réadapte tout de suite, C'est-à-dire, parce que je n'ai pas commencé, c'est 40 minutes. Cinq minutes. Ah, ça c'est dramatique, là, ce que je vais devoir faire. Mais bon, je vais passer tout de suite à la limite à ce que je souhaite vous dire, en tout cas sur le mariage. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que nous comprenions que, à côté de tous les contresens que le mariage pour tous a, le contresens majeur est celui du mariage pour tous. Parce que dans la Bible, effectivement, le mariage est présenté comme le lieu d'expression de l'altérité par excellence. Et prétendre effectivement que on peut mettre sur le même plan un mariage entre deux êtres de même sexe a priori stérile, a priori infécond, avec le mariage fécond d'un homme et d'une femme, eh bien, une société qui met les deux sur le même plan et qui considère que les deux sont égaux, marche sur la tête. Et que c'est important vraiment qu'on comprenne ça. Alors, j'en viens tout de suite. Alors, il faut que j'avance un peu la présentation. Est-ce que c'est possible d'avancer Oui, c'est moi qui fais avancer, donc. Voilà, mais vous aurez cette présentation. Vous aurez cette présentation, donc. Alors, toujours cette idée qu'il ne faut pas se conformer. Alors, vivre le mariage. Donc, quelques éléments de compréhension biblique. Quelques éléments qui me semble vraiment important de mettre en avant par rapport à la société et les formatages auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est surtout pour ça que j'ai voulu insister sur l'aberration que constitue le mariage pour tous et de quelle manière il nous faut nous positionner vraiment d'une manière très claire. Alors, deux éclairages bibliques, un que j'emprunterai au texte que l'on voit dès le commencement, en tout cas c'est Jésus qui dans l'évangile de Matthieu parlera de ces textes qui sont dès le commencement, donc des textes qui disent tellement de choses importantes sur l'homme, la femme, sur Dieu, sur la relation que nous avons avec Dieu. Et j'essaierai également, si le temps est là, de vous apporter aussi un éclairage à partir du livre poétique, le Cantique des Cantiques. Alors, dès le commencement, vous connaissez ces textes, qui sont des textes que nous avons déjà étudiés les uns et les autres, commentés, qui ont été l'objet d'études bibliques. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 27. Le Seigneur dit, Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. » Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et puis, Matthieu 19, 4 à 5, c'est Jésus qui parle et qui va mettre dans sa réponse une partie de Genèse 1,27 et une partie de Genèse 2,24. Et cette fusion des deux textes est théologiquement vraiment très, très pertinente, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Jésus qui nous dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès les commencements, les fit hommes et femmes, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Genèse 1,27, c'est le couple homme-femme qui est image de Dieu et qui est le sommet de la création de Dieu. Et la création tout entière, si vous lisez Genèse chapitre 1, est ordonnancement d'un chaos informe et vide. À partir d'une masse informe et vide, Dieu va séparer, Dieu va différencier. Dieu va différencier la nuit du jour, les ténèbres de la lumière, les masses d'en haut, des masses d'en bas, la terre de la mer. Et chaque fois que Dieu sépare, chaque fois que Dieu différencie, Dieu trouve que cela est bon. Dieu sépare, ne laisse rien mélanger, et trouve que la différence est bonne. Et la différence est tellement bonne qu'il s'en réjouit et qu'il la promet. Et dans le monde voulu par Dieu, l'ordre vient de la différenciation et des limites. Quelles conséquences pour nous dans notre compréhension du mariage? Quelle implication? Eh bien, la première chose que je dis et que j'enseigne depuis 30 ans que je fais du conseil conjugal, accueillir la différence de l'autre comme une donnée biblique fondamentale. Et accepter l'altérité sans chercher à altérer l'autre. Le dictionnaire décrit et définit l'altérité comme le caractère de ce qui est autre. Altérer, c'est tout faire pour essayer de rendre autre. Ça, c'est la première conséquence pour nous de Genèse 1,27. Et le cœur du mariage, eh bien, c'est bien la reconnaissance de l'altérité, la reconnaissance de la différence, la reconnaissance de la complémentarité. Se réjouir de cela et le promouvoir dans nos couples. Et cette différence est clairement une marque de notre finitude. Je ne suis pas tout l'humain. Je suis un être sexué, mais je n'ai pas la totalité de mon espèce en moi. J'ai besoin d'un être de l'autre sexe pour produire mon semblable. Et c'est ce que le mariage permet effectivement de traduire. Et au cœur du mariage, théologiquement, eh bien, promouvoir la différence et s'en réjouir est véritablement le cœur de l'idée que Dieu se fait de notre mariage. Pour Genèse 1,27. Si je regarde Genèse 2,18, ce texte est vraiment frappant, parce que dans le chapitre 1, le texte qui revient et le rythme qui revient, c'est Dieu vit que cela a été bon, Dieu vit que cela a été bon. Et puis là, en Genèse 2,18, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon, il est bon, il n'est pas bon. Je vais donc lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Est-ce que Dieu est surpris? Est-ce que Dieu s'adresse une autocritique par rapport à ce qu'il a fait. Je n'ai pas l'outil théologique pour vous dire pourquoi Dieu met ça en avant, mais je crois que très pédagogiquement, c'est pour nous qu'il le fait. Et l'homme n'est pas fait pour être solitaire, vivre de manière isolée ou de manière autonome. Et en tant que vis-à-vis, en tant que vis-à-vis, sa femme est son allié naturel. Et quand Dieu crée la femme, l'homme dort. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sommeil. Et quand l'homme se réveille, il est ébloui. Ce serait très intéressant que nous, les hommes, nous gardions de nos épouses ce regard lumineux et ébloui de quelqu'un qui n'est pas moi, qui ne pense pas comme moi, qui est certes sorti de ma cote, mais avec toute cette idée, cette richesse du terme biblique, la femme qui est aide-secours. Alors les théologiens ont beaucoup de peine à traduire ce terme vis-à-vis et aide-secours, mais c'est l'idée de aide, de secours, de vis-à-vis, de semblable, de différente, de complémentaire et de à côté. Eh bien, quelles sont les implications toutes simples pour nous? Eh bien, la création de la femme, en tout cas telle que le présente Genèse de 18, c'est le constat d'un manque. Le constat d'un manque, l'homme sans la femme est limité et incomplet. Et le fait qu'il est limité, eh bien, pousse l'homme à reconnaître la femme comme sa parenté. Voilà la chair de ma chair, dira-t-il, l'os de mes os. Mais la reconnaître également comme quelqu'un de désirable et en même temps comme quelqu'un d'inaccessible. Parce que nous sommes radicalement coupés de l'autre sexe par le sexe que Dieu nous a donné. Et parce que nous sommes totalement coupés, tout en étant désirables, on reste un peu, parfois, partiellement ou totalement incompréhensible. Et qu'est-ce qui va permettre à ces deux personnes d'être ensemble et de construire quelque chose qui va véritablement honorer Dieu? Le dialogue qui vient de la confrontation et la relation qui vient du constat de la différence. Et cette idée de aide-secours, ce n'est pas l'indice de l'infériorité de la femme. Le mot hébreu « aide-secours » désigne souvent Dieu lui-même comme secours de son peuple. Et voilà que le mariage va permettre de mettre tout ça en musique. Et quand on regarde Genèse 2, 24, et ça va vraiment très loin par rapport à l'idée que Dieu veut que véritablement nous intégrions, quand Genèse 2, 24 nous parle de cette rupture, de cet attachement et de se devenir une seule chair, eh bien, le mariage institué par Dieu commence par une rupture avec la famille d'origine. Et les termes utilisés par Dieu sont extrêmement vigoureux. L'homme abandonnera son père et sa mère. L'homme laissera derrière lui son père et sa mère. L'homme continuera à aimer son père et sa mère, parce que nous sommes appelés aussi à honorer nos parents, mais il préférera sa femme. Aimer son père et sa mère, préférer sa femme. Et c'est une rupture non d'affection, mais une rupture de proximité. Mon conjoint devient mon plus proche prochain. Mon conjoint devient, comme le dit le livre de Malachie, en tout cas pour la femme de mon alliance. Et quitter, s'attacher, devenir, c'est une feuille de route extrêmement simple, extrêmement cohérente, un appel à la fécondité de cœur, fécondité spirituelle, fécondité intellectuelle, dans le devenir, dans les projets. Et c'est ce dont le discours sur le genre et la théorie du genre veut nous priver. Et ça devrait vraiment lever en nous une sainte indignation. Et quand la parole de Dieu dit « devenir une seule chair », eh bien l'infidélité conduit au mélange des chairs. Et s'il y a vraiment une chose que Dieu exècre, c'est le mélange. On n'est plus vraiment et véritablement une seule chair avec son conjoint, mais on est mélangé, on est mêlé. Et l'autre chair qui s'immisce dans ma seule chair, eh bien, altère et endommage gravement la seule chair que je forme avec mon conjoint. Et devenir une seule chair, c'est sérieux pour Dieu, extrêmement sérieux. Et quand on voit Jésus dans Matthieu 19 reprendre ces deux idées, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme? Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa, Genèse 1, 27. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est étonnant de voir effectivement, de voir Jésus dans la réponse qu'il fait aux pharisiens, mettre ensemble Genèse 1, 27 et Genèse 2, 24. Parce que le premier texte, Genèse 1, 27, va de l'unité vers la diversité. Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. Alors que Genèse 2, 24, entame un mouvement inverse, il va de la diversité vers l'unité. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un. Unité, diversité, diversité, unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le mariage nous a été donné par Dieu en ce sens qu'il représente l'unité et la possibilité de réflexion sur l'unité fondamentale qui existe entre l'homme et la femme. Et le mariage qui permet en quelque sorte de refléter cette unité fondamentale qui existe entre l'homme et la femme. Unité, diversité, diversité, unité. Et le mariage qui, aux yeux de Dieu, représente une telle représentation de ce qui se fait de l'homme et de la femme ensemble. Bien distinct et en même temps unis et tellement complémentaires dans ce qu'ils vont devenir et dans ce qu'ils vont vivre. Alors, qu'est-ce que nous disent ces textes sur le mariage? Et Reynald, je vais essayer d'aller très vite maintenant. Les mots-clés de ces textes, c'est le mot altérité, c'est le mot limite, c'est le mot alliance, c'est le mot fidélité, c'est le mot engagement, c'est le mot préférence, c'est le mot rupture. Et je crois que c'est certainement pour cela que la Bible use volontiers de la relation du couple comme une métaphore de la relation entre Dieu et l'homme. On voit ça dans le livre d'Osée au chapitre 2, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, et bien sûr, on le voit dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Alors pourquoi cette métaphore et pourquoi cette image qui revient constamment dans la Bible comme vraiment une constante. Chaque fois que Dieu veut nous faire toucher du doigt son amour, l'intimité qu'il a avec nous, le désir de relation qu'il veut produire avec nous. Pourquoi c'est toujours l'image du couple qui revient? Eh bien, non pas parce que Dieu serait masculin et l'homme féminin, ou que l'amour serait d'essence divine, mais parce que dans le mariage, on vit de manière extrêmement charnelle et intime, l'altérité et les limites. L'alliance et la fidélité. La préférence et l'engagement. Et voilà que l'homme et la femme mariés vont toucher du doigt quelque chose qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre de l'altérité fondamentale qu'il y a entre Dieu et nous. Dieu, maître souverain, Dieu, Père éternel, créateur, Seigneur, qui vit une relation avec des gens comme nous, profondément charnels. Et voilà que ma relation avec Dieu me confronte à l'altérité la plus fondamentale qui soit. Eh bien, le mariage qui permet de toucher du doigt quelque chose de cette altérité. Parce que finalement, c'est un peu cela que j'expérimente dans ma relation quotidienne avec Dieu. Dieu à la fois très proche de moi et en même temps tellement différent de moi. Et je crois fondamentalement que si le couple est si souvent pris comme métaphore de la relation que Dieu a avec nous, c'est que le couple permet de toucher du doigt cette altérité-là. Et c'est de ça dont on veut nous priver. Et vous voyez pourquoi c'est véritablement une vague de fond auquel il faut vraiment que nous résistions de toutes nos forces. Alors je vais arrêter là, et je le regrette, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce texte du Cantique des Cantiques. Parce que c'est bien beau tout ce que je dis. Si effectivement le mariage est illustration de quelque chose qui touche à l'essence même de Dieu, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que j'en fais dans ma relation avec mon épouse, avec mon époux? Et ça, c'est une question sur laquelle on travaillera demain.